C'est quelque chose d'intéressant de regarder un petit peu ce qu'il en est de cet ouvrage singulier dont Serlio lui-même disait que il faisait problème dans sa production. Vous savez que Serlio s'est essentiellement servi des notes de Baltasare Peruzzi pour rédiger son traité de perspective et qu'en particulier il se déclare lui-même tout à fait incompétent en matière de perspective et que par conséquent il se contente de répéter ce que dit son maître. Ça aura une certaine importance tout à l'heure quand nous aborderons, si nous avons le temps, cette question des fausses règles de Serlio qui a déjà fait tellement couler d'encre. J'enseigne les mathématiques, mais aussi l'histoire des sciences et des techniques. Et c'est à ce titre que cette affaire de perspective m'intéresse et que j'y ai consacré beaucoup de mon temps. Au fond, les choses ont commencé en 1984, lorsque l'Association des professeurs d'Italien de l'Académie de Caen me demande si je veux participer à un projet sur une exposition autour d'un tableau tout à fait essentiel du Musée des Beaux-Arts de Caen, qui est le Sposalizio du Pérugin. Et ce mariage de la Vierge, donc, que nous voulions entourer d'un appareil scientifique particulier, a donné lieu à une exposition qui s'appelait « Le Pérugin, exercice sur l'espace », dans lequel les professeurs d'italien, mais aussi des peintres locaux, mais aussi des classes du primaire, mais aussi des professeurs de mathématiques dont j'étais, et des philosophes, ont produit un catalogue. Et cette exposition n'était pas isolée. Il y avait aussi une exposition à la bibliothèque municipale, à laquelle Alain Girard avait participé, au point que dans le catalogue, on trouve une liste d'ouvrages d'architecture et de perspectives, tous ceux qui étaient présentés dans une exposition qui avait été organisée en même temps à la bibliothèque municipale. Cette liste, on peut la retrouver parce que j'ai réédité ce catalogue partiellement, et en particulier l'article d'Alain, dans les cahiers de la perspective qui sont publiés par l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de l'Université de Caen. Donc c'est pour moi l'occasion de rappeler cet événement parce que au fond c'était 2 ans après la publication de son petit livre sur les livres italiens en Basse-Normandie, et il était évidemment tout prêt à travailler à ce projet dans la mesure où d'une certaine manière il avait déjà commencé cela, à ceci près qu'à cette occasion-là nous avions réuni quasiment tous les traités de perspective imprimés que l'on peut connaître en langue française, allemande ou italienne en tout cas, lors de cette exposition jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et quasiment tous se trouvaient dans les bibliothèques soit bas-normandes, soit haut-normandes. Et il se trouve que l'ouvrage de Serlio dont je vais parler se trouvait dans un très bel exemplaire à la bibliothèque municipale de Caen. J'ai tourné longtemps autour de ce traité. Il a été présenté à cette occasion-là, mais à ce moment de l'histoire, je n'avais pas encore fait le lien avec les difficultés que nous avons rencontrées à étudier et à analyser certains tableaux, et en particulier le fameux mariage de la Vierge de Pérugin, mais aussi le mariage de la Vierge de son élève, Raphaël, qui se trouve à la Brera de Milan, et dont je regrette qu'à l'époque il n'ait pas pu venir à Caen. Ça s'est joué à un cheveu, mais ça aurait été une belle occasion de mettre ces deux tableaux en présence pour montrer la différence qu'il y avait entre la manière de ces deux peintres. Voilà le contexte général. Nous allons donc parler de cet architecte, Sebastiano Serlio, 1475-1554. Il est intéressant pour ce qui est du second livre, donc du traité d'architecture de Serlio, mais qui paraît en même temps que le premier en 1545 et à Paris pour la première impression en édition bilingue. Je m'intéresse à cet ouvrage parce que quand on essaie de faire, comme je tente de le faire, une histoire de la perspective qui soit une histoire conceptuelle, c'est-à-dire qui essaie de rendre compte de la manière dont l'esprit vient aux gens. Et il faut que vous compreniez que ce point de vue, c'est le point de vue de l'épistémologue qui essaie de faire une histoire des mathématiques dans laquelle on essaie de comprendre comment les concepts ont été élaborés au fil du temps. Et cette affaire de la perspective est évidemment extrêmement complexe. Et quand on essaie de faire cela, Eh bien, Serlio est, comme on dit, un incontournable, bien qu'il apparaisse souvent comme un auteur de second étage, d'une certaine manière, dans La Fusée, dans la mesure où c'est un auteur qui publie en 1545 et que tout le monde a en mémoire que les premiers ouvrages sur la perspective datent de 1435 et 36 pour Alberti, pour aussi bien son traité de la peinture dans les deux versions latines et italiennes que les éléments de peinture que quelquefois on essaie de lui attribuer, ce qui est un petit peu problématique, à ceci près qu'il s'agisse d'Alberti, qu'il s'agisse de Filarete, qu'il s'agisse de Piero della Francesca, qui a été l'un de mes auteurs favoris ces dernières années, eh bien, tous ces ouvrages sont restés manuscrits. Très probablement d'ailleurs, par l'absence de figure dans le cas d'Alberti, parce que même les éléments de peinture qui sont beaucoup plus précis que le traité de la peinture ne comporte pas de figures originales, donc on est dans la reconstruction à chaque fois. Et dans le cas de Piero della Francesca, certes, on a deux séries d'illustrations tout à fait extraordinaires, on verra peut-être tout à l'heure une ou deux, sauf que ces deux séries d'illustrations, dans la version italienne et dans la version latine des manuscrits, dont on pense qu'on peut les attribuer, si ce n'est toujours à la main de Piero, en tous les cas que ça a été fait sous sa dictée, dans le cas de la version latine, eh bien, ces ouvrages qui datent donc de 70-80 au Quattrocento, eh bien, ces ouvrages demandent des tracés tellement fins qu'il est impensable de les voir imprimés par la gravure sur bois. Donc la remarque qui a été faite aujourd'hui sur cette question du passage de la gravure sur bois à la gravure sur cuivre est tout à fait essentielle dans le cas qui nous occupe. En effet, par exemple, pour Piero della Francesca, il est très très clair que les dessins sont faits au fur et à mesure qu'il écrit le texte. Et par conséquent, si jamais le texte était illustré par une gravure, le graveur serait obligé de refaire les gestes du dessinateur, et il se peut, tellement les écarts sont infimes, que ce geste le conduise à une gravure différente du dessin qui, lui, est conduit chronologiquement dans l'ordre des opérations. Donc il y aurait un décalage, et si jamais quelqu'un a essayé de le faire à l'époque, on comprend pourquoi ça n'a pas conduit à une impression. Quant à Alberti, vous savez que c'est un petit peu plus tardif aussi, ce qui fait du traité de Serlio, non pas le premier traité publié de la part d'un Italien, puisqu'il y a l'exemple un peu singulier, là encore, de Goricus, qui lui va connaître des impressions très tôt, dans le premier XVIe siècle, mais trois d'ailleurs, mais c'est un texte en latin d'une part, et d'autre part c'est un texte qui lui non plus n'est pas illustré et dont les méthodes perspectives sont abordées, c'est dans le De Sculptura bien sûr, hein, vous connaissez l'édition qu'on avait faite Klein il y a de nombreuses années, et ce De Sculptura ne permet pas de comprendre tout à fait, c'est toujours problématique, quelle est la voie empruntée par Goricus. Donc, si l'on regarde chronologiquement, en termes d'impression, quel est le premier ouvrage de perspective imprimé en italien, eh bien, on tombe sur Serlio, 1545. Édition singulière, puisque c'est la première fois, non pas qu'un ouvrage est publié de façon bilingue sur le sujet, dans la mesure où, en 1505, à Toul, Viator va produire un ouvrage dans lequel, dans des rééditions qui arrivent très très vite, on a à la fois le texte latin et le texte en vieux français, encore que ce sont des textes beaucoup moins explicatifs que ceux de Serlio, et beaucoup moins longs que ceux de Piero della Francesca. Par conséquent, l'édition bilingue de Serlio, italien-français, est tout à fait singulière de ce point de vue, du point de vue de l'histoire de la perspective. De ce même point de vue, c'est un texte tout à fait passionnant parce que, à la fois, Serlio s'inscrit dans la tradition, pour ce qui est en particulier des images perspectives, mais il s'inscrit aussi dans l'innovation. Et d'autre part, il s'inscrit aussi dans l'erreur. Non pas la faute, mais l'erreur. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que commettre des erreurs dans des règles en 1545, alors que la question est réglée depuis au moins un siècle, et que la plupart des auteurs se sont alignés soit sur les méthodes de Piero della Francesca et d'Alberti, soit sur les méthodes qui débutent très très rapidement en Europe du Nord, et en particulier celles initiées par Jean Pellerin Viator, eh bien, comment dire, Serliot va proposer deux règles qui sont fautives. Et qui sont fautives, complètement, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas des images dont nous disons, nous mathématiciens, qu'elles ont un caractère projectif, c'est-à-dire qu'elles correspondent à une bonne application de la perspective, quelle que soit la méthode utilisée, et puis une autre qui produit des images projectives, mais avec un point de départ qui est erroné, c'est-à-dire une interprétation un peu étrange, dont je me suis longtemps interrogé sur sa signification. Des règles erronées, c'est nécessairement une pratique antérieure, parce que je crois beaucoup à cette alternance, à cette dialectique entre théorie et pratique, surtout dans ce domaine précis qui relève d'une géométrie pratique un peu plus élaborée. Dernière réflexion, j'ai beaucoup parlé de figures et vous comprendrez mon intérêt pour les livres à figures, dans la mesure où j'ai été frappé très vite dans mon parcours d'études des ouvrages de perspective par le fait que lorsqu'il s'agit de peintre, l'architecte c'est différent, mais lorsqu'il s'agit de peintre, quand on publie des catalogues d'œuvres complètes du peintre, y compris d'œuvres graphiques, on trouve rarement les œuvres de type géométrique. C'est tout à fait flagrant dans le cas de Piero della Francesca, qui est non seulement un théoricien de la perspective, mais aussi un théoricien de l'algèbre, dans lesquels il traite de problèmes de géométrie, et un théoricien des corps platoniciens, puisque vous savez que c'est ce qui a permis ensuite à son élève, Luca Pacioli, de publier une géométrie dans laquelle il reprend cette question des corps platoniciens. Eh bien, les œuvres graphiques complètes de Piero della Francesca, sauf dans des éditions assez récentes en Italie, mais en France en tout cas, ça n'est pas le cas, ne sont pas complètes, puisque ces dessins-là ne sont pas représentés. C'est, me semble-t-il, une erreur fatale, surtout quand on étudie des ouvrages scientifiques dans lesquels les images ont autant d'importance que le texte, quelquefois plus encore, et qu'elles permettent éventuellement de mettre en évidence des filiations. Il est déjà étonnant en soi que le livre 1 et 2, dont nous allons parler essentiellement, paraissent en 1545, bilingue donc, c'est-à-dire après les livres 3 et 4. En effet, c'est en 1537 que Serliot publie son livre 4 à Venise et en italien uniquement, et en 1538 que paraît le livre 3. C'est un ouvrage qui est donc paru à Paris et qui donne le texte en latin et en langue française par Jean Martin, secrétaire de Monseigneur le Révérendissime Cardinal de Lenoncourt. C'est à Paris. Et c'est, avec privilège du roi, pour 10 ans, nous dit-on, au susdit Sébastien Serliot, son architecte de Fontainebleau. Rôle important donc de Serliot en France, et on comprend que son ouvrage ait pu être relativement répandu. On apprend à la fin de l'ouvrage que c'est chez Barbet que cette édition s'est faite. Alors le premier livre est un livre de géométrie. C'est un livre de géométrie pratique dans lequel on trouve des choses tout à fait intéressantes, mais qui sont parfois étranges, qui correspondent en fait à de la géométrie qui peut être utilisée par les architectes. Serliot s'intéresse à la manière d'augmenter les grandeurs de manière proportionnelle par des procédures géométriques qui sont parfaitement connues et maîtrisées. Pourquoi je dis cela ? Parce que lorsque l'on fait une histoire de la perspective, en général, on introduit le point de fuite très tôt et on l'introduit comme la marque de l'invention. Je suis obligé de m'inscrire en faux par rapport à ça. Quand on connaît l'histoire de la géométrie pratique au Moyen-Âge et à la Renaissance, il est clair que la question de la dégradation perspective est d'abord traitée en termes de proportion, parce que c'est l'habitus des géomètres de cette époque. Et le point de fuite n'apparaît qu'en tant que conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une réciproque du théorème de Thalès, excusez-moi d'être un tout petit peu technique ici, qui fait que lorsque vous joignez des lignes, lorsque vous les prolongez, elles se joignent en un point. Et ce point se trouve être le point de fuite. Vous remarquerez qu'elles ne sont pas ici prolongées. C'est contraire à l'idée d'une géométrie qui pense l'espace de manière assez différente de ce que justement deviendra cet espace grâce à l'invention de la perspective au Quattrocento. Et cette mutation-là se fera seulement au XVIIe siècle. Auparavant, il est rare que l'on dessine des lignes qui n'existent pas. c'est-à-dire qui ne sont pas de support physique. Ça va commencer avec la perspective en particulier et l'architecture, dans la mesure où, pour les tracés d'architecture, on est amené à prolonger des lignes de projection ou de prolongement, ou encore des rayons visuels, on les trouvera chez Serliot en pointillés. C'est une des premières apparitions du genre. On trouve des choses comme ça aussi chez Philibert Delorme, en France, à la même époque. C'est des détails comme ça que la figure va donner comme renseignement aux mathématiciens qui s'intéressent à la manière dont petit à petit évolue la pensée de l'espace, ou plus exactement, la pensée des objets de trois dimensions. Car le mot espace, je vous le rappelle, spatium, intervallum, c'est d'abord l'idée qu'entre les objets physiques, il y a une solution de continuité. Alors c'est tout à fait important parce que si cela m'intéresse, c'est parce qu'il se trouve que la perspective relief va permettre et produira au XIXe siècle la géométrie projective dans le domaine qui me concerne, c'est-à-dire celui des mathématiques. Une géométrie tout à fait nouvelle qui va bouleverser à tel point la mathématique qu'elle permettra la théorisation de quelque chose qui jusque-là paraissait être un interdit, c'est-à-dire les géométries non-euclidiennes qui, comme le nom l'indique, sont des géométries qui nient le cinquième postulat, c'est-à-dire le fameux postulat des parallèles. Si je vous dis maintenant que l'on ne peut pas penser la relativité restreinte si on ne dispose pas d'un espace hyperbolique, c'est-à-dire de l'une des trois géométries non-euclidiennes, vous voyez les enjeux que ça peut représenter du côté de la science. Du côté de l'art, et je terminerai là-dessus, une étude serrée du tableau de Raphaël, le mariage de la Vierge, montre que lorsque l'on étudie le carrelage au sol du mariage de la Vierge de Raphaël, les carreaux qui devraient produire des diagonales, du fait qu'elles sont parallèles dans la réalité, convergent vers un point, ne convergent pas. Et elle découpe l'horizon d'une manière régulière, ce qui veut dire que Raphaël, lorsqu'il a construit ce tableau, a nécessairement construit ce tableau avec une règle qui a produit des effets erronés. Qu'à cela ne tienne, le mathématicien va calculer ses rapports, demander à la Brera de Milan qu'on lui envoie des mesures exactes du carrelage de Serliot, etc., et vérifier que la suite des écarts que l'on enregistre permet de montrer que c'est la règle de Serliot qui a été utilisée par Raphaël. Alors bien évidemment, dit comme ça, c'est un anachronisme. En fait, la règle de Serliot est exposée, d'après, très probablement, les papiers de Balthasar Peruzzi, qui a travaillé avec Raphaël. L'explication technique est assez simple. Il se trouve que le mariage de Raphaël s'inscrit, d'ailleurs comme celui de Pérugin, sur une seule dalle tout à fait grande, c'est-à-dire que les personnages sont étagés sur une seule dalle du carrelage, qui sont des dalles monumentales. Le mariage se passe à des mètres et des mètres du temple qui est au fond, que ce soit chez Pérugin ou chez Raphaël. Et lorsque vous reconstituez tout cela, l'architecture, on s'aperçoit donc que ces personnages s'inscrivent très très loin du temple. Et pour finir sur la question de la fausse règle de Serliot, lorsque vous essayez d'inscrire une perspective avec un carrelage complet au sol, comme le préconise Alberti, c'est avec une base d'une dizaine de carreaux sur la ligne de terre. Ici, il n'y a qu'un seul carré. Et donc, notre ami Serliot fait comme probablement a fait Raphaël et comme a pu faire Peruzzi, pour enchaîner les carreaux en profondeur et non pas en largeur, suivant la méthode d'Alberti, il invente un espèce de mixte qui réutilise la diagonale du carreau suivant comme si c'était la diagonale posée sur la première ligne de terre. La question est un petit peu technique, mais j'espère que vous me croirez sur parole. Ça produit cette fausse règle de Serliot sans qu'on puisse se tromper, en particulier lorsque, par les calculs, on peut traiter de la question. J'espère vous avoir convaincu que les livres à figures sont des livres qui méritent d'être visités, non seulement par le texte, mais aussi par les figures, ce qui n'empêchera pas que j'essaierai de donner une édition critique du texte bilingue de ce traité qui est quasiment achevé, avec une traduction moderne du texte italien, parce que Jean Martin prend beaucoup de liberté avec le texte italien, vous vous en doutez, vous qui connaissez fort bien cet humaniste français qui a traduit de nombreux textes italiens. Je vous remercie.